Au rendez-vous de midi, musique, littérature, débat d'idées. Dans le sillage du travail éditorial de la revue La Pensée de Midi, un rendez-vous mensuel pour tenter de mieux comprendre ce qui se passe dans le monde méditerranéen. Au rendez-vous de midi, chaque premier samedi du mois, ou comment associer le gai savoir au goût de la vie. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition du rendez-vous de midi avec aujourd'hui deux grands moments pour cette émission. D'abord un moment musical avec Gilles Suzanne qui accueille Moussuté et les Juvens, Tatou et Blue, qui nous parle de Claude Maquet, de banjo et de Marseille, porte du monde. Et puis, deuxième grand moment de cette émission, de rendez-vous de midi, à l'occasion de la parution du numéro de la revue La Pensée de Midi, Mythologie méditerranéenne, un entretien avec Émile Témim autour de la grande figure de Gabriel Odizio, homme de lettres et homme de revue, qui a joué un rôle important avec les Cahiers du Sud et qui n'a cessé de faire le lien entre Marseille et Alger, une autre façon de parler de la porte du monde.
Donc bonjour, aujourd'hui on va discuter, recevoir le groupe Moussuté et les Juvens. Donc pour deux albums qui ont été édités en 2004, 2005 et 2006, si je ne me trompe
2004
pas.
2004 et 2006, c'est ça, oui.
2004 et 2006, donc le premier Mademoiselle Marseille et le deuxième Forever Polida.
Polide. On va essayer de mettre un accent sur l'accent.
Allons-y.
Donc Moussuté et les Juvens et Forever Polide.
Bon voilà, donc et aujourd'hui on reçoit, donc vous êtes quatre dans le groupe. Donc Jamilson, qui n'est pas ici aujourd'hui, Zerbino, et donc Tatou et Blue. Donc bonjour à vous deux.
Salut.
Mais bonjour. Voilà, donc on a la moitié.
Voilà.
Tu as la moitié, donc ce qui fait que les Juvens sont sous-représentés finalement.
Bon, mais j'espère que vous direz pas la moitié des choses.
Non, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, ils font les cons quand ils sont tous là, donc c'est mieux d'en avoir qu'un. Tu es commencé les jeunes.
Hein. Bon. Donc, je voulais qu'on commence par parler de banjo, donc de Claude Maquet, parce qu'il me semblait que, enfin, c'est vous qui l'indiquez, et on l'entend aussi dans les deux albums, de parler de banjo, donc cet ouvrage qui a été écrit donc dans les années 30, en 28, il me semble, 1928, par Claude Maquet. Et commencer peut-être par ce que vous me disiez, qu'est-ce que vous tirez, vous, du livre? Qu'est-ce qui vous a dit, ce livre?
Principalement, ce qui nous a, c'est que ce regard extérieur, De quelqu'un qui n'est pas, on va dire, dans le cadre français, sur Marseille, pour nous, c'est une espèce de regard libérateur. C'est-à-dire que, en fait, ce qui était drôle, c'est qu'on a rencontré quelqu'un qui allait totalement dans notre Marseille rêvé, quoi. Dans ce qu'on était en train d'essayer de vouloir construire, nous, il y avait d'un seul coup, c'est comme si on trouvait une espèce de grand-père là, qui nous aurait raconté la même, ce après on était en train de courir après un truc finalement, et puis là le type il nous racontait que en 1929-28 il y avait des types qui couraient après le même truc, en fait, que le Marseille qui se représentait lui était finalement beaucoup plus proche de notre Marseille à nous Marseillais que tous les Marseilles que se représentent les Français en général. Mmh. Donc c'est, surtout ça c'est intéressant, c'est-à-dire aussi pour nous de briser le truc et de dire putain, on est quand même intéressant, ce mec il arrive de Jamaïque, là c'est quand même un grand écrivain et il s'intéresse à nous, donc c'est qu'on est peut-être un peu moins con que ce qu'on dit d'habitude. Donc,
et ce truc-là de Marseille, ce Marseille dont vous parlez, c'est quoi précisément? C'est un Marseille qu'on pourrait dire comment populaire, cosmopolite, c'est...
Cosmopolite, bien sûr, populaire, un Marseille on va dire... un Marseille démocratique, moi je dirais, c'est-à-dire un Marseille qui garde encore les derniers vêtements de sa vieille république là, comme ça. Après, par rapport à donc nous on vient de Massilia son système, donc il y a aussi là un hasard un peu qui nous a enfin, je veux dire, ce qui nous a c'était assez extraordinaire on trouve d'un seul coup, nous qu'est-ce qu'on fait, on est un groupe qui est né au panier, c'est-à-dire près de ce qu'il appelle la fosse, lui, le haut de cette fosse, la partie qui a eu la chance de ne pas être détruite. Donc le groupe, il est né au panier, c'est un groupe de reggae, donc, qui s'inspire de la Jamaïque. Et là, d'un seul coup, on a un Jamaïcain qui arrive et qui nous raconte l'histoire d'une bande de mecs qui veulent monter un groupe de jazz. dans le même quartier que nous. C'est un Jamaïcain, le type, il parle de Marcus Garvey, il y a tout ce délire sur la défense, le vin, quand ils vont aspirer le vin dans les barriques. Donc finalement, encore une fois, c'était... On s'est demandé pourquoi on ne l'avait pas rencontré plus tôt, ce type. Moi j'aurais gagné 10 ans si 10 ans avant, on m'avait dit, il y a un mec terrible qui s'appelle Claude Mackay, il a écrit tout ce que vous racontez, là, il a écrit. Je pense que c'est quand même révélateur que ça soit pas un Français qui l'ait fait.
Et ce côté sur quoi tu revenais, démocratique de la ville comme espace démocratique ou de la démocratie, en quoi ça vous parle et qu'est-ce que ça vous a donné envie de dire, si c'est ça que vous trouvez dans le roman de Mackay?
Ça nous parle parce que c'est scène de rue, tout simplement. C'est-à-dire c'est la ville où l'extérieur est un endroit de rencontre. Alors que maintenant, la ville, si tu sors dans la rue, les mecs, ils font que marcher ou qu'aller à la boulangerie ou que revenir du boulot. Ils sortent jamais dans la rue. Je vais parler avec machin, je sors dans la rue. Donc là, il y a l'image de cette ville où la vie sociale, si tu veux, elle se fait dehors. Que cette ville-là, elle n'existe plus.
Donc quelque part, ça veut dire que ce que vous avez tiré de ce roman, c'est quelque chose que vous trouvez encore très pertinent aujourd'hui?
Oui, puisque nous, on a toujours dit, à travers Massilia, tout ça, que ce qui était intéressant pour que les gens se réintéressent à la politique, c'était de commencer par faire des trucs chez eux, c'est-à-dire de mettre le débat à nouveau dans la rue, faire des repas de quartier, organiser des lotos, des concours de boules, c'est-à-dire tous ces lieux extérieurs de rencontre. Et là, ça va totalement dans le même sens.
Et en sachant ce que vous avez fait autour de Massilia, alors pas seulement effectivement ce qui est du registre de l'artistique, mais ce que vous avez fait à partir de Massilia dans la ville et pour la ville, je dirais, vous trouvez des choses différentes à faire à partir de ce que vous faites dans les Jovens?
Non, parce que on est des musiciens. On a le droit de parler. Là, j'ai le droit de débattre sur la démocratie dans ma ville, mais je suis pas un homme politique, je suis un musicien. Donc esthétiquement, dans Mackay, dans Banjo, on trouve des choses qu'il n'y a pas dans Massilia Sound System, qui sont plutôt du registre de Moussuté et les Jouvets. L'époque, le jazz, le blues, les choses qui arrivent comme ça, qui ont des rapports avec Massilia, hein, mais qui ne sont pas des rapports directs. Quoi. Je pense que dans Moussuté et les Jouvets, déjà, nous, on vient d'une petite ville à côté de Marseille qui s'appelle La Ciotat, qui est une ville portuaire, exactement, qui est un petit Marseille, on va dire, hein, une espèce de quartier de Marseille qui aurait été détaché. Donc à la fois portuaire, industriel, et donc on a ce côté de Banjo, il raconte Marseille, mais il pourrait raconter La Ciotat, donc il y a déjà ce truc-là. Et puis nous, je pense qu'on a toujours aimé avoir cette dimension un peu immédiate des choses, c'est-à-dire qu'il ne soit pas du domaine du spectacle, qu'il soit un truc vraiment, tu peux descendre en bas de chez toi, tu prends la guitare, tu chantes, Et tu sens ce truc-là dans Banjo. Tu sens ce truc-là dans le personnage de Banjo. Comment, quand il est dans le bar, hop, il prend le banjo, il commence à jouer, les gens ils se foutent le feu. Et c'est qu'après qu'il dit, on pourrait peut-être faire un bon truc avec ça, on pourrait peut-être gagner notre vie avec ça. Mais il y a ce côté immédiat. Il rencontre un type qu'il ne connaît pas, qui joue de la flûte, il écoute le type jouer, il dit, putain, c'est super, allez, hop, viens avec moi, on va faire un... Donc voilà, ça nous intéressait aussi. Ça nous intriguait aussi parce que, en même temps qu'on a découvert Banjo, on a découvert une photo, une vieille photo, qu'on a mis d'ailleurs en couverture de Mademoiselle Marseille, remontée, parce que ce n'est pas la vraie photo. Et sur la vraie photo, il y a d'autres musiciens que ceux qu'on voit. Il y a des mecs qui jouent de l'accordéon. On avait aussi envie de... quand on a vu ce cadre, donc c'est une espèce de... On va dire ça se passe dans un boui-boui, quoi, un espèce de resto clandestin, un peu, quoi. Et on voit des noirs et des blancs qui jouent ensemble, de la musique. Et nous, évidemment, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils jouent? Qu'est-ce qu'ils sont en train de jouer? Donc aussi, ça nous a titillé pour nous dire, mais on va essayer d'inventer le répertoire que ces types-là sont en train de jouer.
Ouais, c'est ça, comme de la même façon quand tu lis un bouquin et il y a des images qui t'apparaissent. Hein, chacun qui va lire le même bouquin va avoir des images différentes. Donc vu que c'était quand même un bouquin où on parle de musique, on s'est dit, c'est vrai... Si on était à leur place, qu'est-ce qu'on aimerait entendre, qu'est-ce qui vient à nos oreilles, quoi, quand on lit ce bouquin, quoi. Et le projet, il est parti de là, en effet. C'est, d'ailleurs, notamment autour du banjo, qui est quand même un instrument phare dans notre musique. Et c'est pas des images qu'on avait, mais c'est ce qu'on entendait en lisant, c'est marrant à dire, mais ce qu'on entendait en lisant le bouquin, ça a quand même dicté notre ligne de conduite artistique pour ce projet-là.
Et parce que après, je pense que comme c'est encore une fois, c'est d'un seul coup, c'est plus un regard qui est, c'est plus un regard français au sens de la pensée française, voilà, sur Marseille. Ce qui fait donc que tout ce qu'on a nous de souterrain, il est révélé par ce livre. On pourrait faire 50 sujets sur Marseille à partir de Banjo. Et on trouverait les rapports entre la musique et les voyous. Voilà, c'est un truc super, personne n'en parle. Il y a un truc à Marseille là, qui est comparable à ce qui s'est passé à Chicago. Les rapports entre... voilà, comment les gens du peuple, ils prennent tous ces types qui arrivent de l'extérieur et tout. Il y a des millions de choses qui n'ont pas été, parce que la littérature française, elle ne s'est pas intéressée à ça. Elle ne s'est pas intéressée à ce truc-là. Donc effectivement, ce livre... c'est pour ça qu'on peut en parler pendant des plombes. Quoi. Ça pourrait inspirer des musiciens, pas simplement
mais
des
d'ailleurs,
artistes.
D'ailleurs, ça l'a fait. Ça a inspiré quand tu écoutes Scotto et que tu lis Banjo, que tu écoutes en tout cas ce qui se faisait à l'époque de Banjo. Le rapport, il est de suite, il est immédiat. Tu écoutes Scotto écoutes
la
Jamaïque. Écoutes, voilà.
Ça casse le truc. C'est-à-dire que quand les Français ils pensent à Scotto, ils pensent à l'exotisme marseillais de Scotto. À aucun moment, ils cherchent dans Scotto qu'est-ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il y a d'universel dans ce truc? Qu'est-ce qui, effectivement, une fois que tu as du banjo, tu réécoutes Scotto, tu fais « Putain, mais il a tout pompé. Il a tout pompé. C'est que du jazz, c'est que des musiques créoles, c'est que des... » Donc c'est un truc qu'on nous présente constamment comme quelque chose d'ultra-local, presque la caricature du local pour les Parisiens. Alors qu'en fait, le mec, au départ,
c'est super universel.
C'est un truc qui ressemble à IAM, qui est dans le... conceptuellement, qui est foutu pareil, quoi.
Mais voilà. Il me semble que c'est un peu ce que j'avais envie de vous dire. C'est ce que disait, je crois que c'est Deleuze qui disait ça pour Kafka. Il disait écrire être comme un étranger dans sa propre langue. Je crois que ça dit aussi beaucoup de ça, ce que vous dites et comme vous le chantez, et ce que dit McKay aussi à sa façon dans le roman. Et du coup, ce que je vous proposais de faire, c'est qu'on écoute un premier extrait sur cette idée qu'effectivement, ce que vous chantez et ce qu'écrit McKay nous concerne et nous concerne de manière, je dirais, universelle ou générale. Et pour ce premier extrait, j'avais choisi d'écouter « Pour de bon, ils nous le font ».
Ah oui.
Pour de bon, pour de bon, pour de bon, on va le faire.
Pour de bon, pour de bon, pour de bon, nous le ferons.
Escuta bien, camarada, que el sur nouvel farai. Uno pour ir en volado, bueno per foutre le guai. Espasino galleggiado, approchavo si vous plaît.
Pour de bon, ils nous le font.
Approchavo si vous plaît. Parlare da queste gente, que nous fanno giocare isai. Se il sol nous donne des faits, et nous fous de ces palais. Nous tratons de gendere.
Pour de bon, ils nous le font.
Nous tratons de gendere. De capo e le fenian, e lei sulle buone gene, si all'ima rise scura, su una punta su una gene, io cantirei mendian. E io cantirei mendian, o che mandun lei fabbrico, di de Paris de Tiran, punte de regna fabbrico, fai susa mai le zenfan, es la lei economica. Es la lei economica, tutte nulla esplica, tante fe a core di compegrei che compere in pa, ed Europa in America, e cantiere la ciutà. Chantier de la Ciuta, c'est le phasier des pétroliers. Alors que tout est sbaga, les mines fin des fourriers. Ça boum pas manque tifa, une batte on met les papiers.
Pour de bon, ils nous le font.
Une batte on met les papiers, et les vélos de calto. Encore un spalier messier, pour embarquer les prévots. Et tout est les courariers, en terre de l'horizon.
Les grues, alors j'aimerais jamais qu'il les lave. Même si ça travaille pas, je trouve que c'est comme si on levait Notre-Dame de la Garde à Marseille. Notre-Dame de la Garde à Marseille. Notre-Dame de la Garde à Marseille.
Donc on parlait de, peut-être qu'on va rebondir sur ça, on parlait de ce que vous avez ramené d'universel ou de généralisé ou généralisable dans du roman de McKay. Pour parler de l'aspect musical de votre travail, qu'est-ce que vous ramenez justement d'universel du blues? Parce que finalement, le blues, effectivement, c'est peut-être comme Marseille, on le ramène toujours à sa particularité, toujours à du local. Et vous, j'ai l'impression que vous avez réussi à en tirer quelque chose de plus universel.
Enfin, blues, Bon, par exemple, on vient d'écouter un morceau, par exemple, qui est un morceau qui est totalement dans la tradition nordestine, brésilienne. Des repentistes. Et moi, par exemple, à chaque fois que j'écoute des repentistes, je pense à des chanteurs de blues. Pour moi, c'est donc je sais pas si c'est le blues en tant que faut définir la question. C'est le blues du delta, on va dire, le blues du sud de l'Amérique du Nord. Plein de choses indirectement déjà, puisque toutes les musiques, ne serait-ce que le reggae, le rock, enfin, tout ce qu'on a écouté depuis qu'on est petit, y a du blues dedans.
Alors moi, l'hypothèse que je me faisais, c'est que peut-être que vous ramenez du blues, c'est peut-être ça ce dont on peut parler, c'est-à-dire plus une posture, je dirais, qui quelque part ramènerait, par exemple, mettrait sur le même plan le chansonnier, on va le dire comme ça, et le bluesman, mais au même titre que ça pourrait être un MC ou un troubadour.
Oui, je pense que c'est ce qui divise la musique. C'est pas des trucs esthétiques. Ce qui divise la musique, c'est la pratique, la posture des gens. Tu as tout à fait raison. Et c'est vrai qu'il y a, une identité de posture entre le type qui improvise de la bourrée, le type qui chante du blues, assez souvent improvisé d'ailleurs, le DJ de hip-hop. Donc entre tous ces trucs qui sont à la fois des trucs traditionnels, c'est-à-dire des choses qui s'inscrivent dans toutes ces musiques là, qui ont une espèce de c'est des genres quoi, hein, qui s'inscrivent dans un genre de continuité, c'est-à-dire il n'y a pas une invention musicale importante continuelle, et puis à la fois il y a toutes ces musiques donnent une part très importante à l'improvisation, à l'illustration du moment. Donc elles sont toutes vachement proches, et je pense que si nous ici on est très sensible à ça, si nous ici quand on entend un chanteur de blues, si ici quand tu entends je sais pas Robert Johnson, sans comprendre ses paroles tu sais de suite de quoi il retourne, c'est parce que tu en as besoin, c'est-à-dire que parce que ici à un moment donné on nous a couper le blues en quelque sorte.
Ouais, c'est ça.
Et qu'on a continuellement besoin de ce truc.
Je pense que c'est vraiment un problème franco-français, à savoir, on s'entête à mettre des étiquettes sur les styles musicaux, notamment, pour parler de musique. Le blues, quand on dit à un français, enfin en tout cas ici chez nous, on nous dit le blues, on pense de suite au blues, voilà, les mecs dans les champs de coton qui sont en train de jouer de la guitare, c'est des clichés. Maintenant, si on s'en réfère à ce qu'ils font réellement, on se rend compte qu'est-ce qu'ils font. Ils chantent des chansons sur leurs femmes, sur leurs conditions de travail, sur l'alcool. Si on s'en réfère aux musiques des troubadours ou même des musiques pas aussi vieilles, mais au début du siècle dans nos campagnes dans le sud-ouest, tu écoutes les mecs, ils parlent de quoi ? Ils parlent de leur nana, de l'alcool et de leurs conditions de travail en train de couper, de ramasser du raisin. Enfin, et c'est exactement la posture, c'est exactement la même. Et ce qu'ils racontent finalement, c'est exactement la même chose remis dans leur contexte, quoi. Mais donc après, on peut l'appeler blues ou pas blues, ou musique traditionnelle, ou folklore, ou ce qu'on veut, mais en tout cas, sur le fond, c'est exactement la même chose, quoi.
Moi, je crois qu'en plus, il y a un côté de la possession. Je pense que c'est des musiques qui ont un rapport avec la possession, c'est-à-dire que c'est des musiques, quand tu les fais, tu es possédé par ce truc-là. Je pense que c'est aussi... ce truc-là, on le retrouve aussi partout. Tu retrouves cette espèce de possession dans le type qui improvise la bourrée, même dans le type qui danse la bourrée, il y a cette possession. Et d'ailleurs, même ici, ils sentent bien, avant, ils interdisaient la danse, hein, parce que c'était le truc du diable. Donc, ils savent bien que c'est la possession, qu'il y a cette idée de... Et je pense que c'est important, ça. C'est-à-dire que... Parce que ça veut dire que quand le type, il chante, c'est... Le sens, il n'est pas contenu que strictement dans les paroles que tu comprends. Il est beaucoup plus contenu dans la globalité de ce que ton oreille perçoit.
Et d'incarner cette posture, tu parles de possession, de le faire aujourd'hui et de le faire de la manière dont vous le faites, c'est-à-dire en tant que, j'ai envie de dire, chansonnier, mais au vrai sens du terme, oui, ça dit quoi de le faire dans la société d'aujourd'hui et peut-être dans la ville dans laquelle on est ?
Ça, je pense que c'est humain, donc c'est au contraire. Ici, il y a le manque. Si, pourquoi on va rechercher ça loin? Parce qu'on a, on a le manque d'un truc qui serait tout près de nous, qui on n'aurait pas besoin d'aller chercher. Si on l'avait, si on avait cette forme, c'est-à-dire si on nous avait permis de continuer à garder nos formes d'expression, on n'aurait pas besoin d'aller les chercher. Mais le fait qu'on nous ait pas permis de les garder, c'est pour ça que les jeunes, ils écoutent de la musique qui vient d'ailleurs. C'est parce que parce qu'il y a plus de musique qui vient de chez eux, donc ils écoutent la musique d'ailleurs. Donc tu en as toujours besoin. C'est pas parce que là il y a des buildings ou des machins que ça continue pas. C'est pas. Alors après effectivement c'est souvent le départ est souvent rural de ces musiques. Mais il y a aussi une tradition urbaine qui est aussi ancienne, je pense, qui est pareille, quoi.
D'accord.
Je t'ai coupé la.
Non, juste je voulais dire que c'est le travail aussi qu'ont fait les Fab Blues Troubadours, à savoir de ramener cette forme brésilienne à leur Occitanie et de se rendre compte que finalement tous les repentistes, les coquistes, ces troubadours nord-estins, leur influence, elle vient d'Europe, quoi, elle vient de chez nous. Et c'est eux qui sont venus chercher ça à une époque chez nous et qui l'ont ramené chez eux. Et aujourd'hui, c'est un peu de l'import-export, quoi, on dirait. C'est vraiment du commerce. Il y a une espèce d'échange comme ça entre le Nord-Est et l'Occitanie qui fait que finalement, on va rechercher ce qu'on avait nous chez nous, quoi.
Et ça, justement, d'établir des correspondances comme ça, je dirais, entre...
Parce que c'est la vraie histoire, en quelque sorte. En fait, c'est la vraie histoire. La fausse histoire, c'est l'histoire qu'on t'apprend. Ça, c'est la fausse histoire. Paris, Machette, c'est la fausse histoire. La vraie histoire, c'est pas comme ça, l'histoire. La vraie histoire, ça veut dire comment les recettes qu'on a trouvées pour vivre ensemble, comment on s'est démerdé à ce moment-là, comment de ça on est passé à ça. Cette vraie histoire, elle est pas du tout ce qu'on nous raconte, quoi. Donc il n'y a pas des coupures et des... Enfin, je veux dire, nous, on voit pas d'un côté l'Afrique, d'un côté, ça fait partie de leur histoire, c'est pas la vraie histoire, ça.
Donc, ça veut dire que vous êtes vraiment sur une idée de musique, je dirais, ou de creuser musical l'art qui articule plus les choses qu'elles vont les réduire à leur identité, à leur localité.
D'artisanat, de fonction. Ça marche, on l'utilise.
Ok, bon, on va peut-être s'arrêter là. Je voulais qu'on écoute un autre morceau, peut-être qui illustrera ce qu'on vient de dire, qui est Bulega Banjo.
Allez, banjo, amène-nous au baba. On va se faire caguer. C'est pour des vignes, c'est pour des bambous, c'est pour des filles en pou. A dormir, sai senso e não é sido em pé. Encore mais o sul é o exano a dormir, se há nem gato na vivenda da bucharia. É bué, anem bulego, banjo bulego. Que fala em refrém que será pad em la lengua dei general, dei general, dei general, dei general, dei general, dei general. Maxia, maxia. Macu poplena, Maxia, Maxia, quelli cama macudena, ai vuoi, Maxia, Maxia, e me è un fag espara da moto, oh no, e un carino giornato che non usa un pacco un tuo, la lei papi. Giornato che avviene scappana che stupettande con tuule dei papieri. Ah, vuoi? Arin, 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 bulega, banjo, bulega, bulega, vuoi? Che farai il refrain che sarà pad in la lingua da che lì marco mao. Maxia, Maxia, al macu poplena. Maxia, Maxia. Quelli che mamma cudeno è canzaio tutta cova. Maxia, Maxia, e me è un faghe spalata moto. Are, 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 bulega, mangio, bulega. noix nous trouve à la mer au fond de la poche une piche au corps carré. Eh ouais. Un corps de mal la noix nous trouve à la mer dans la poche on est que c'est fait un pot de bain. Eh ben là, allez, allez bourrego banjo bourrego 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 tout à toi. Que fera un refrain que sera pas dans la langue du capital, du capital, du capital, du capital. Marcia, Marcia, hai ma coupa plena. Marcia, Marcia, hai vuoi, vuoi ricama ma cudena. Hai papà lì, vai! Marcia, Marcia, hai ma coupa plena. Marcia, Marcia, vuoi ricama ma cudena. Marcia, Marcia, e meglio un fuoco sparata morta. Oh no, 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 e meglio un fuoco sparata morta. Oh, mai pure che faccio fare, che sai, che sai, che sai.
Donc pour conclure, on va peut-être dire deux mots de plus. Je voulais vous demander peut-être vous poser une dernière question sur quelque part sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire sur en quoi la musique que vous produisez, les textes que vous avez écrits, ils viennent revisiter, je dirais, la ville, ils viennent revisiter aussi les musiques qui s'y font ou les musiques qui y passent. C'est peut-être une manière de dire cet album-là comme, ou ces deux albums-là comme quelque part un carrefour qui ferait de la ville, un carrefour des musiques, des gens, des identités, etc.
Ouais, je ne sais pas si ça revisite. C'est... Moi, je pense qu'il y a déjà un côté illustration. Ça illustre, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait ? On se met devant la porte et, avec la guitare là, et on regarde ce qui se passe. On regarde le film, hein, comme les types qui jouaient du piano pour les films muets. Et puis on fait notre truc, il y a ce côté-là. Et après, je crois qu'il y a aussi le... On voit que c'est très important, on en parlait tout à l'heure, là, de s'inscrire. Hein, c'est-à-dire que toutes ces musiques qu'on écoute sont des genres. Pourquoi c'est important ? Parce que ça donne des repères aux gens. C'est-à-dire que si on veut que toute la communauté se parle, il faut qu'on ait deux, trois repères pour pas que ça parte dans tous les sens. Hein. Comme quand tu fais un débat, tu as un sujet, tu vois, c'est pareil. Ça, c'est le sujet, en fait. Donc, la deuxième chose, c'est aussi d'essayer de s'inscrire comme ça dans des... Et donc, pour s'inscrire, évidemment, on va piquer ce qu'on n'a plus chez nous. Donc, on va le piquer ailleurs. Là, on avait un morceau qui était plutôt un truc genre high life, un truc ghanéen, un peu... Peut-être caraïbe aussi, c'est parce que tout finit par ce... Je pense que dans Maquet aussi, il y a ça. Il est très content aussi parce qu'à Marseille, il y a les Noirs du monde entier qui viennent. Il n'est pas content parce qu'il rencontre que des mecs qui viennent du sud des États-Unis. Il est content parce qu'il y a des Noirs du monde entier qui viennent. Et que là, il s'aperçoit de la richesse de ce truc-là. Et nous, quand on est devant notre ville, et qu'on s'aperçoit de la richesse de tout ce que qu'amène la ville, mais le monde aussi. Parce que, voilà, parce qu'on écoute, parce qu'on a, eh ben, on a envie de s'en servir. C'est, je ne sais pas si c'est un truc fait exprès, ça. Hein.
Ok. Bien. Blue,
ouais, ouais, après, comme il dit, c'est vrai qu'on est des gens de la rive. Hein, on a la chance d'habiter dans un port, donc il y a les cultures du monde entier qui arrivent par ce port. Et ce qu'on dit souvent, c'est qu'on est un peu des cannibales. On prend ce qui nous intéresse à droite. On prend tout ce qui passe là, tu vois, et on recrache le mauvais, quoi. En tout cas, on essaye pour nous de prendre ce qui est bon, quoi.
Et tu vois, ça renvoie même encore une fois au Brésil où il y a aussi les cannibalistes, quoi, qui disent la même chose. Nous, les Brésiliens, nous prenons tout ce qui arrive. Nous sommes comme les toupies, nos ancêtres qui étaient cannibales. Il y a tout ce qui arrive sur la plage, on le bouffe et on s'en sert. Je pense que oui, c'est un peu la même situation ici. Voilà, de la ribe, c'est le littoral. Mm-hmm. Donc, c'est un peu notre... C'est un peu pourquoi ça a été fait. C'est-à-dire que quand les gens ils disent « Ah, Marseille, c'est pas comme avant. » Je pense qu'ils ont la nostalgie de ça. Ils ont la nostalgie de... Voilà, de la porte du monde, Marseille, la porte du monde. Alors bien sûr, il y a cette histoire coloniale française et tout qui viennent tout, on va dire, troubler. Mais Marseille comme porte du monde, je pense que c'est pas simplement que de qu'un truc de l'État français, quoi. C'est aussi un truc que
de la rue.
De la, ouais, un besoin des Marseillais. Mm-hmm. Notre identité, finalement.
D'accord. Ben écoutez, merci beaucoup à vous deux. Merci de
merci
de ces deux
merci
albums.
Merci à toi seul.
Bon. Et ben peut-être qu'on dit deux mots pour finir, juste de ce
DVD, hein, donc qui est sorti le mois dernier. Voilà, donc où vous pourrez voir plein d'images de la Ciotat et puis
dépêchez-vous, il n'y en a presque plus.
Dépêchez-vous, il n'y en a presque plus. Des bouts de concert et tout ça. Qu'est-ce que j'avais à dire? Aioli. Ciao.
Allez, bye.
Deuxième grand moment de ce rendez-vous de midi, en compagnie de Émile Temim, pour parler à la fois de littérature et de débat d'idées du monde méditerranéen autour de la figure de Gabriel Odizio et à l'occasion de l'apparition du numéro de la Pensée de Midi, Mythologie méditerranéenne. Émile Temim, historien bien connu à Marseille, puisque c'est un des historiens phares de Marseille, qui a fait l'histoire de Marseille, une histoire de migration. Mais on connaît peut-être un peu moins ces jardins secrets qui sont le travail sur la revue Les Cahiers du Sud, sur le rêve méditerranéen. Et donc à l'occasion de la parution du numéro de La Pensée de Midi, Mythologie méditerranéenne, Émile Temim nous a donné un très beau texte sur Ulysse, la figure d'Ulysse, mais un Ulysse écrit par un écrivain qui a joué un rôle important à Marseille et qui a fait le lien entre Marseille et Alger, Gabriel Odizio. Émile Temim, bonjour.
Bonjour.
Alors, Gabriel Odizio est une figure littéraire, politique aussi, d'une certaine façon, très impliquée dans tous ces milieux, dans les années 20, dans les années 30, qui a joué vraiment un rôle majeur et pourtant un rôle tout à fait méconnu. Alors j'aimerais d'abord qu'on parle de ce personnage, Gabriel Odizio, et nous, chemin faisant, nous irons jusqu'à ce très beau texte « Ulysse ou l'intelligence », qui a été republié récemment par Gallimard, mais d'abord la figure de Odizio, au fond dans l'histoire culturelle de la Méditerranée, dans l'histoire de la relation entre Alger et Marseille, à travers les Cahiers du Sud et les liens que Odizio a pu avoir avec un certain nombre de grands intellectuels, et en particulier Albert Camus. Émile Temim.
Ce sont des liens très, très compliqués, très complexes, parce que Odizio lui-même est passé de Marseille à Alger, de Alger à Paris, et toute son œuvre se déroule en quelque sorte entre ces trois villes.
Alors c'est quelqu'un qui est né en 1900, je crois. Donc c'est quelqu'un qui est né avec le 20e siècle.
Il est né en 1900, il est né au fond avec toute la période des Cahiers du Sud, précisément, au moment où les Cahiers du Sud vont apparaître, lui, et précisément dans ce milieu-là.
Donc avec Jean Ballard et toute l'équipe.
Avec Jean Ballard, il a fait ses études à Marseille. Hein, il a déjà aussi entre Marseille et Alger, vivant dans un milieu sur lequel il faut quand même dire deux mots, hein, parce que c'est un milieu d'artistes, c'est un milieu culturel. Son père, il a suivi son père qui a dirigé l'opéra à Marseille et qui l'a dirigé ensuite, qui a dirigé le grand théâtre, comme on disait, à Alger. Par conséquent, il a suivi ce milieu culturel, un milieu culturel qui est celui de son père, qui est celui de sa mère, qui est celui de sa grand-mère, qui a italianisé son nom parce que elle était chanteuse d'opéra. Alors, bien sûr, on voit le sens. Et il a été mêlé dès le début à ses aventures littéraires qui se sont déroulées entre Marseille et Alger.
Alors peut-être l'aventure littéraire qu'on bien connue à Marseille, mais qui mérite quand même d'être soulignée. En tout cas, le rôle que Gabriel Odizio a pu avoir dans les Cahiers du Sud, et surtout dans la façon dont, je dirais, il a inspiré une vision de la Méditerranée beaucoup plus ouverte, alors que, il faut le rappeler, on était en pleine période coloniale.
Oui, il faut représenter cette introduction, cette avancée, en quelque sorte, de Gabriel Odizio dans les années 30. Hein. Dans les années 30, c'est à ce moment-là. Il est déjà une figure bien connue à Alger. C'est lui qui s'occupe en particulier de ce qui concerne précisément la culture du côté algérien. Et en même temps, il a gardé ses relations avec les Cahiers du Sud, avec cette revue qui ne s'est pas vraiment engagée politiquement jusqu'à Odizio. Et à partir d'Odizio, elle va s'engager culturellement, elle va s'engager politiquement.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que Gabriele D'Isio prend des positions très nettes, qui sont des positions culturelles, mais qui sont aussi des positions politiques, contre tout ce qui est la latinité, contre ce qui est d'un côté et du côté provençal, par exemple les idées maurassiennes. Il s'engage contre ces idées maurassiennes et il écrit dans les Cahiers du Sud, justement, ce sont ces textes des Cahiers du Sud qui sont tout à fait intéressants, et aussi, surtout, contre une certaine forme de politique qu'est le fascisme.
Alors effectivement, il y a un livre qui s'appelle « Le sel de la mer » où Odizio écrit des textes assez vigoureux parce qu'effectivement, à cette époque, on est en plein cœur de l'idéologie fasciste, de cette vision d'une Méditerranée unilatérale, latine, qui a, je dirais, le barès de la colonisation de l'autre côté de la Méditerranée en la figure de Louis Bertrand. Il y a entre Paris et la Provence, la figure de Maurras, et puis une certaine fascination d'un certain nombre d'intellectuels pour le fascisme. Et effectivement, Gabriele D'Isio est un de ceux qui va, je dirais, condamner avec une extrême vigueur cette vision, ce péant pro-colonial au nom de la Méditerranée latine.
À la fois, il prend position contre cette vision colonialiste, et pourtant, il est lui-même fonctionnaire français en Algérie. Et en même temps, il prend une position très dure contre, justement, cette notion de la Mare Nostrum fasciste et contre les ambitions, justement, du fascisme en Méditerranée. C'est-à-dire qu'il élargit le thème. Ça n'est pas simplement une position anticolonialiste qu'il prend et qu'il défend et qu'il défendra toute sa vie. C'est une position de renaissance de la Méditerranée. Il écrit un livre.
Justement, ce serait peut-être intéressant d'approfondir cette idée de renaissance de la Méditerranée, parce qu'il y a ce que vous appelez dans les années 30, qui renoue au fond avec ce qui a existé le siècle précédent avec les Saint-Simoniens, ce que vous appelez un rêve méditerranéen. Alors, quel est dans la vision d'Odizio les termes, les éléments qui composent ce rêve méditerranéen?
Alors, disons, pour être bref, qu'il y a d'abord cette idée qui est empruntée aux Saint-Simoniens, qui est la réconciliation de l'Occident et de l'Orient. C'est un moment où ça paraît possible. Et Odizio prend dans cette affaire, dans cette idée de la réconciliation, une position très avancée. La Méditerranée, c'est un ensemble. Et par conséquent, ce qui se produit en Orient et ce qui se produit en Occident, c'est complémentaire. Et ça, c'est très important dans son idée, c'est-à-dire que pour lui, il ne s'agit pas simplement de l'Algérie, où il joue un rôle important, il s'agit du Maghreb, il s'agit du Mashrek. Et son idée, c'est effectivement que cette Méditerranée, le lien, un lien étroit, un lien, comment dirais-je, sentimental, mais pas seulement sentimental, charnel. Charnel chez lui, sans arrêt, la mer, la présence de la Méditerranée, c'est quelque chose qui crée une certaine unité. Et alors, naturellement, ça se traduit d'une autre manière, c'est-à-dire qu'il revient à la fois sur le passé de la Méditerranée, il remonte jusqu'à l'époque homérique, et en même temps, il voit dans cette Méditerranée renaissante, dans cette Méditerranée coloniale de l'entre-deux-guerres, la possibilité, en quelque sorte, de gens de jouer un rôle, de se rapprocher les uns des autres, de ne former, il emploie le terme, mais il faut bien l'employer dans le sens de l'emploi Odizio, il emploie le terme de race. Mais attention, c'est le contraire du racisme qui est en train de surgir.
Oui, au fond, ce qu'il cherche, c'est une forme de synthèse méditerranéenne, de dimension syncrétique que l'on voit d'ailleurs complètement on en voit la trace dans plusieurs numéros des Cahiers du Sud.
Et en particulier, il y a eu toute une discussion là-dessus, sur cette idée justement d'une synthèse méditerranéenne, et il voulait introduire dans les Cahiers du Sud cette idée de la synthèse méditerranéenne. Et alors ça s'est passé au moment de juste avant la guerre, au moment de l'occupation, et après, c'était très difficile de l'introduire effectivement, mais il était très sûr d'avoir raison de ce côté-là.
Oui, il y a un côté visionnaire dans la figure d'Odizio. Aujourd'hui, quand on parle de Gabriel Odizio, plus personne, ou à peu près, ne sait qui c'est. Or, d'une certaine façon, vous écrivez que c'est le père, Odizio, que c'est le père de ce nouveau rêve méditerranéen, de cette vision à l'époque extrêmement ouverte, et que notamment, il a joué un rôle très important dans les idées et dans la façon dont un certain Albert Camus va écrire son œuvre.
Oui,
Alors parlons un peu de ces relations Odizio-Camus à partir d'Alger et autour de cette librairie et de cet éditeur Edmond Charlot et cette librairie qui s'appelait Les Vraies Richesses.
Oui, il y a 15 ans d'écart en gros entre Charlot, Camus d'un côté et Odizio qui est le prédécesseur. C'est pour ça qu'eux-mêmes reconnaissent en Odizio le père. Celui qui a en quelque sorte lancé les idées de rapprochement entre les populations, ce qui impliquait évidemment une transformation complète du système colonial et aussi une idéologie nouvelle en quelque sorte basée sur la Méditerranée, mais l'Algérie était en particulier un lieu exemplaire pour lui de rapprochement entre les populations. Ça paraît curieux aujourd'hui.
Oui, parce que en même temps, dans les années 30, on est au moment de la célébration de l'expédition coloniale, et donc il y a ce grand mouvement qui va être aussi un basculant. C'est le moment où les éléments du nationalisme algérien commencent à prendre forme, donc on est à la fois d'une période charnière, et on se demande si aujourd'hui, alors bon, on a le recul de l'histoire, si ce discours méditerranéen n'était pas là un peu pour faire illusion, si c'était pas une belle incantation qui s'opposait au discours colonial frontal et aux volontés de l'appropriation de l'Algérie au nom de la latinité.
Oui, il y a incontestablement les deux qui vivent ensemble. Et pour Odizio, l'essentiel, c'était d'arriver justement à un rapprochement des populations et en particulier un rapprochement qui passait à travers la culture méditerranéenne, à travers la forme de culture de j'allais dire le choc des cultures.
C'est un des premiers à avoir parlé de cette notion de culture méditerranéenne.
Mais non seulement à en avoir parlé, mais à essayer de la mettre en scène. La mettre en scène, c'est un homme de culture, c'est un homme de théâtre. Odizio, et par conséquent, il essaye. Il y a eu la Clémence du Pacha, qui a été une de ses œuvres, aujourd'hui fort méconnue, d'ailleurs, peut-être à juste raison, c'est parce qu'il a fait mieux. Mais c'était un monde, justement, où mettre en scène des acteurs de culture musulmane et des acteurs de culture européenne, chrétienne, c'était une façon de les rapprocher. Le théâtre, la scène même, était un lieu où ils pouvaient se rencontrer, parler ensemble. Parler jusqu'à un certain point la même langue, qui était une langue de culture.
Il y a donc chez Odizio, un acte de reconnaissance symbolique et culturelle, notamment dans la relation avec la culture arabe, ce qui est tout à fait nouveau dans les années 30. Et on va en voir la trace dans un certain nombre de numéros des Cahiers du Sud.
Oui, mais pour Odizio, ça remonte plus loin. Avant même de venir s'installer en Algérie, s'était intéressé à la culture arabe, à arabo-musulmane, comme on dit aujourd'hui. J'aime pas beaucoup ce terme. Mais c'est vrai qu'il était, sa curiosité le poussait à essayer de retrouver en Méditerranée ce type de culture fort intéressante et à mettre en scène en quelque sorte. Je dis mise en scène parce que c'est effectivement des choses qui le rapprochent de Camus justement, c'est ce goût du théâtre.
Alors quels sont les liens justement entre Odizio et Camus? Ils se sont bien connus à Alger?
Ils sont très bien connus à Alger. Il est, quand on parlait de père tout à l'heure, il est le père de cette école d'Alger, de ce groupe, si vous voulez, qui est à la fois le groupe de Camus, de Robles. Il faut rappeler de temps en temps d'autres que Camus, quelle que soit la sympathie qu'on éprouve pour Camus, mais aussi un des hommes qui a suivi et encouragé toute cette littérature de langue française, mais de souche kabyle ou arabe, qui s'est formé autour de l'école d'Alger. Hein, je pense à Mouloud Feraoun, je pense à Dib, qui a survécu, lui, à cette période pendant assez longtemps.
Et à celui qui se définissait comme un Janus bifront.
Qui est Jean Amrouche, c'est-à-dire un homme qui, justement, fait partie de cette double culture, qui est un kabyle chrétien, qui fréquente aussi bien le milieu culturel dont nous avons parlé, le milieu des hommes d'Alger, de l'école d'Alger, que ce monde particulier qu'est le monde
des lettres parisiennes, on peut dire ça,
voilà,
comme ça.
Voilà, c'est ça. Et finira, d'ailleurs, tout ce monde-là finira à Paris. Hein.
Mais, comment dire, c'est là avec, on ne va pas anticiper la guerre d'Algérie, en tout cas les événements de Sétif en 45 qui sont dramatiques, et puis petit à petit, cette tentative de synthèse va être confrontée à la réalité des déchirures de plus en plus violentes du politique, je dirais jusqu'à l'absurde, mais ça c'est au fond des moments que Gabriel Odizio, pour revenir à lui, n'a pas vraiment connu.
Si.
Ah.
Si. Ce sont des moments.
Vous avez travaillé sur effectivement sur le fond de Odizio.
J'ai travaillé sur le fond Odizio. Odizio.
Il disparaît à quelle date, Odizio?
Oh, beaucoup plus tard, dans les années 70.
D'accord.
Mais il est engagé, il est à Alger même, et il est chargé justement de la culture par le gouvernement français au moment de la défaite des années 40. Alors, c'est vrai qu'il a connu cette période-là, qu'il a été obligé de quitter Alger, parce qu'il pensait mal, et que par conséquent, on l'a renvoyé en France, d'où il était quand même engagé auprès d'Alger, et faisait de l'aller-retour pendant un certain temps. Et il est revenu à Alger plus tard, à un moment où Jean Amrouche devient un des directeurs de la culture à Alger au moment de la libération, cette transformation qui suit le débarquement des Alliés en Afrique du Nord. Bon, on retrouve. Et à ce moment-là, Odizio est encore en France, il ne reviendra, il est même en prison à un moment à Fresnes, il s'en souviendra, et il reviendra ensuite à Alger pour y prendre vraiment sa place et toute sa place. Et à ce moment-là, il a connu les événements de Sétif. Mais il n'en parle pas parce qu'il est un fonctionnaire français, il est un fonctionnaire colonial. C'est tout le problème, justement, d'un homme. Il y a des déchirements dans tout ce monde-là. Hein. Camus est déchiré.
Ce que l'on peut dire de ce qu'on ne peut pas dire. Ce serait peut-être intéressant d'ailleurs de vous rappeliez en quelques mots ce qui s'est passé à Sétif, parce que tout le monde ne le sait pas. C'est-à-dire qu'au moment où on célèbre la libération...
Le jour de la
libération. Donc le 8 mai 45.
Le 8 mai 45 se produit à Sétif quelques événements un peu violents qui se traduisent et qui se transforme par une répression absolument abominable qui va tuer des milliers et des milliers de gens et sur laquelle, en fond, la France a fait silence. Mais ceux qui étaient intéressés par l'Algérie, ceux qui étaient en Algérie, ont été profondément marqués par ça. Je vous parlais de Jean Amrouche, je vous parlais d'Albert Camus, l'un et l'autre ont écrit sur cette affaire.
Et puis celui qui a été profondément marqué comme écrivain, c'est Kateb Yassine.
Kateb Yassine, oui, il avait 16 ans.
C'est le moment de basculement, parce qu'on voit la violence. Et de ce point de vue-là, je crois que ce qui est intéressant, c'est, puisqu'on parlait de mythologie méditerranéenne et de ses rapports, c'est la littérature qui est sans arrêt en phase, imbriquée avec les événements politiques.
Absolument. C'est vrai pour Amrouche. Le texte d'Amrouche est un texte magnifique. Et pour lui, Sétif a été le moment de rupture. Mmh. Que suis-je, dit-il. Il dit, je suis un monstre. Je suis un monstre parce que je suis kabyle et je suis français, de culture française. C'est-à-dire qu'il sentait la rupture. Pour moi, Sétif, du point de vue justement de la rupture culturelle, est peut-être plus important que le soulèvement de 54. Il l'annonce, en quelque sorte.
Et ça, Odizio, en parle assez peu, au moins publiquement.
Il n'en parle pas publiquement. Il en parle ensuite en disant, oui, Sétif, ça a été le moment difficile. Ils reconnaissent tous. Je ne parle pas naturellement des articles de combat d'Albert Camus, qui a été le seul à dénoncer à ce moment-là la rupture. Tout en essayant, bien sûr, de garder ses idées anciennes, de défendre, en quelque sorte, la multiculture algérienne.
Alors, on voit qu'effectivement, ce rapport à tout ce qui s'est passé en Algérie dans les années 30, les années 40, les années 50, a quelque chose à nous dire par rapport à aujourd'hui. Mais j'aimerais, pour terminer, Émile Temim, qu'on revienne au mythe, au fond, qu'on revienne au texte de Gabriel Odizio. Et je vais, au fond, vous donner à entendre, partager cette ouverture de ce livre magnifique qui s'appelle « Ulysse ou l'intelligence » et qui a donc été republié par Gallimard. À travers le monde, on ne poursuit jamais que sa propre image, dans tous les êtres et jusque chez Dieu. Nous comprendrons peut-être le mystérieux univers que le jour où nous aurons percé le mystère qu'à nous-mêmes nous opposons. Le thème d'Ulysse orchestre ma vie. C'est un alcool dont je me saoulerai, même s'il doit paraître 100 degrés à tout autre que moi, même s'il faut me résoudre à l'ivresse solitaire. La figure, l'être, le mythe d'Ulysse n'ont jamais cessé de me hanter, m'habitent de plus en plus, s'emparent de mon intérieur, me dépossèdent en me possédant, me rendent à ma vérité après m'avoir arraché à mes apparences. Sans eux, quel fantôme, sans os serais-je? Privé de ce songe, quelle serait ma réalité? Ça, c'est magnifique. Privé de ce songe, quelle serait ma réalité? On a peut-être tout le sens de l'œuvre de Gabriel Odizio.
De l'œuvre depuis le début. Hein, de l'œuvre depuis le début. C'est-à-dire, dans Jeunesse de la Méditerranée, il faisait en quelque sorte de cette Méditerranée, à travers les âges et à travers la pensée, à travers la légende, en quelque sorte. Car la Méditerranée couvre justement ce monde de la légende, ce monde du mythe. Et alors, il faut remonter très loin. Et c'est pas un hasard s'il reprend ce thème d'Ulysse. Parce que pour lui, Ulysse, c'est lui. C'est-à-dire que ce monde...
C'est Ulysse toujours recommencé.
C'est Ulysse toujours recommencé. C'est Ulysse, l'homme. Je crois que c'est très intéressant. Ce que j'ai voulu montrer, moi, dans l'article, le petit article que j'ai fait...
Dans ce numéro de La Pensée de Midi, Mythologie méditerranéenne.
Oui, c'est cette idée de l'homme opposé au demi-dieu, opposé au dieu. Au fond, Odizio n'est pas très déiste, il n'est pas, en tout cas, très chrétien, si j'ose dire, pas plus qu'il n'est vraiment musulman.
Oui, c'est la culture antique qui revient au nom d'une sorte de nouvel humanisme méditerranéen.
D'un nouvel humanisme méditerranéen et qu'incarne Ulysse, parce que le titre, c'est Ulysse ou de l'intelligence, c'est-à-dire que Ulysse n'est pas le héros, il n'est pas Héraclès. Je poserai volontiers Ulysse à Héraclès dans la pensée de Odizio. Héraclès, c'est le héros solide, costaud, qui tue les monstres et qui est en réalité un demi-dieu. Hein,
alors qu'Ulysse n'est qu'un homme.
Ulysse est un homme.
Un homme avec toute son ambivalence, mais en même temps toute sa ruse, son intelligence,
grandeur.
Les spécialistes du monde grec appellent la métisse, cette ruse, cette capacité d'inventer.
Exactement.
Alors, Émile Temim, pour terminer, s'il y avait une bonne raison, au moins une, de lire et de relire Odizio, ce serait laquelle?
Ça serait de retrouver justement cette espérance dans un monde méditerranéen que Ulysse, cet homme qui est moitié navigateur, mais comme il le dit, pas trop navigateur, moitié terrien, jamais héros, mais toujours homme, c'est la Méditerranée, c'est l'humanisme méditerranéen qu'on retrouve à travers lui.
Donc le rêve méditerranéen toujours recommencé.
Toujours recommencé et qui se retrouve à travers cette figure justement de voyageur, du monde, un monde méditerranéen que l'on va parcourir, traverser avec, si vous voulez, la pensée des dieux, mais au fond, les dieux, qu'est-ce qu'ils sont dans le monde méditerranéen? Ce qui compte, c'est les hommes. Ce qui compte, c'est l'intelligence. Ce qui compte, c'est Ulysse, c'est-à-dire un homme qui a la prudence, qui est la ruse, qui est la force aussi, et qui parcourt cette Méditerranée et ses dangers. La Méditerranée, c'est un monde plein de dangers. La mer, c'est un monde plein de dangers. Il faut le parcourir, il faut gagner, en quelque sorte, au-delà, en parcourant ce monde méditerranéen. Il faut gagner la vie que représente la Méditerranée.
Si vous voulez aller un petit peu plus loin, donc vous pouvez lire ce texte Ulysse ou l'homme mythifié d'Émile Temim dans ce numéro de La Pensée de Midi, Petite et Grande Mythologie Méditerranéenne, coordonné par Catherine Payon, avec là aussi de très beaux articles de Catherine Payon, de Takis Theodoropoulos, de Bruno Etienne sur Carmen ou Colomba, de Predrag Matveyevich, de Jean-Louis Fiabelny, et pour terminer avec Michel Guérin sur Qu'est-ce qu'un mythe. Merci Émile Temim. Oui. Et je crois crois qu'à partir de cette figure de Gabriel Odizio, on peut entrer dans une mythologie méditerranéenne qui a toujours beaucoup de sens et de sel aujourd'hui.
Merci.
Merci à Gilles Suzanne et à Moussuté et les Jouvens à l'occasion de cette émission sur la musique et à Émile Témim pour parler de Gabriel Odizio et de la Méditerranée. Et si vous souhaitez prolonger ces moments, rendez-vous le 12 décembre à 18h30 à la brasserie Les Danaïdes où on fêtera la parution de ce numéro de La Pensée de Midi, Mythologie Méditerranéenne avec de très grands invités puisqu'il y aura Maurice Attia qui a fait ce livre Pointe Rouge sur Marseille, le dessinateur Jacques Ferrandez et notre ami Félag qui viendra présenter L'allumeur de rêves berbères. Donc un rendez-vous midi à prolonger au Danaïde le 12 décembre à 18h30 pour faire un peu la fête. Oh.